Alors, à partir de l'annonciation de ce tableau, je voudrais développer un petit topo en quatre points. Enfin, il y aura d'autres choses, vous verrez. Et donc, il y aura quatre points dans mon intervention ce soir. Je voudrais d'abord vous commenter très rapidement deux, trois petits points de ce tableau. Vous voyez ma flèche aussi ou pas?
Oui, affirmatif.
Alors, seulement, vous avez sûrement reconnu, c'est un tableau du bienheureux Fra Angelico, qui se trouve au couvent Saint-Marc à Florence, qui date de la moitié du 15e siècle. C'est une annonciation. Alors pourquoi j'ai pris ce tableau? Parce que dimanche, c'est le quatrième dimanche de l'Avent, et cette année, l'évangile que nous entendrons, c'est l'évangile de l'Annonciation. Alors je voudrais vous faire remarquer deux, trois petites choses et puis après, je vous dirai pourquoi je vais m'en servir pour le topo. Ah, j'ai perdu ma flèche. D'abord, c'est une annonciation qui est d'une très grande simplicité. Vous verrez qu'après, sur beaucoup de tableaux, on voit la Vierge Marie sur un trône, etc. Et là, vous voyez, elle est sur un tabouret. Alors, on est dans un espace un peu monacal, mais on peut imaginer que c'est un intérieur tout sobre, tout simple, et que en fait l'ange Gabriel, vous voyez, il vient rejoindre Marie dans sa vie tout à fait ordinaire. Alors il y a quelque chose de très beau parce que vous voyez que l'ange est plus petit que Marie. L'ange s'incline devant Marie, ce qui fait que Marie est plus grande que l'ange. Et ça, c'est magnifique. C'est bien vu de la part de Fra Angelico. Voilà. Et donc, l'humain est plus grand que les anges. Parce qu'elle va être là, elle va devenir la mère de Dieu. Et puis, vous voyez dans l'arrière-fond, là, il y a deux jardins qui sont séparés par une palissade. Alors, on peut imaginer que le jardin, là, derrière la forêt, ben, c'est un peu la chute. Oh, pardon. Pourquoi la chute? La chute après le péché originel. Voilà, c'est un peu notre état, etc. Et puis avec Marie, ben, va arriver le paradis auquel nous aspirons. Voilà. Qui est donné par Jésus qui arrive. Voilà. Après, un petit détail classique des tableaux. Vous voyez cette fenêtre-là avec les barrières. C'est, en fait, c'est le symbole de la virginité de Marie. Sa pureté, sa virginité. Alors, je ne peux pas faire un focus, mais vous avez les ailes de l'ange qui sont magnifiques. Et c'est le premier point que je voulais voir, oui, à travers cette annonciation. Eh bien, le faire oraison, essayer de rencontrer Dieu, ou de nous laisser rencontrer par Dieu dans notre vie ordinaire. Comme Marie s'est laissée surprendre par Dieu, eh bien, ça provoque un bouleversement. Et donc, l'oraison dans notre vie ordinaire, ça va créer en nous un dynamisme pour le Seigneur. Ça nous met en marche. Ça nous met en route. Et donc, c'est normal que ça bouge. On l'a vu hein, déjà. Et que la dimension du combat demeure. On l'a vu que c'était un combat. On l'a vu notamment, vous voyez, par rapport à la question du temps. Ben voilà. Mettre Dieu dans ma vie à travers l'oraison, eh bien, ça va m'interroger sur la manière dont je gère mon temps, dont je gère mes activités, les choix que je fais. Ben, je trouve que c'est magnifiquement illustré, vous voyez, par ce tableau de l'Annonciation. L'oraison essayer de tenir dans l'oraison, dans cette fidélité à l'oraison, voyez, dans cette rencontre avec Dieu, c'est montrer, manifester, témoigner que nous voulons marcher vers la sainteté, que nous voulons nous laisser transformer par Dieu et que ça transforme toute ma vie, que c'est un vrai bouleversement. Et pas dans des choses extraordinaires, voyez, mais dans des choses quotidiennes. Et donc l'oraison, c'est un moyen de discernement sur toutes les autres réalités que je vais vivre. Parce qu'en fait, rien n'est étranger à Dieu de ma vie. En fait, vous voyez, parfois on peut avoir l'impression que nos vies sont saucissonnées. Des fois, on crée des cloisons. Eh bien, de mettre Dieu au centre par l'oraison, ça décloisonne tout. Et je ne suis pas un saucisson. Voilà. Il y a une unité qui doit advenir dans mon existence. Alors, ça va prendre toute notre vie, hein. Mais voilà. Donc, vous voyez, tant de conversion, tant de dynamisme, finalement, où nous allons essayer de trouver le Seigneur dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons, dans toute personne que nous rencontrons. Alors, pour nous aider à tenir dans l'oraison, il y a un autre moyen, enfin, si je peux ça appeler un moyen. Et alors, je voudrais le faire avec un autre tableau, qui est d'une certaine manière aussi une annonciation, qui est de Van Eyck. Alors, j'arrive jamais à me souvenir de ce nom. Donc, c'est les époux Léophonie. Alors, je ne me souviens plus. Alors, c'est un tableau qui date à peu près de la même époque que Frangelico. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez sûrement, il est très célèbre. Donc, vous avez un jeune couple, voilà, c'est sûrement le mariage, des mariés. Alors, vous voyez, c'est très beau parce qu'on enlève, on se déchausse parce qu'on est sur une terre sacrée, la terre du mariage, de l'alliance entre deux hommes, entre deux personnes. Vous avez le chien, c'est le symbole de la fidélité. Vous avez le lit nuptial. Alors, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus, mais regardez, l'originalité de ce tableau, qui est très connu, c'est qu'il y a un miroir au fond du tableau. Là. Ouais. Et donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce miroir. Et bien, dans ce miroir, il reflète les gens qu'il y a de l'autre côté. Donc, on peut penser que c'est le peintre, c'est Van Eyck qui se représente lui-même avec une autre personne. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est regarder tout ce qu'il y a autour du miroir. Ce sont des scènes qui représentent la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le peintre ici ? Eh bien, Van Eyck, il veut nous dire que toutes nos réalités humaines, les plus simples, les plus ordinaires ou plus grandes, elles sont prises dans le mystère de la vie, de la mort, et de la résurrection du Seigneur. Et donc, que toute notre vie, elle est prise dans le mystère de la rédemption, dans le mystère de la vie du Christ. Et ça, c'est la vie liturgique. Alors, la vie d'oraison, ça peut nous aider à prendre plus conscience que notre vie, que le temps que nous vivons, qui a l'impression d'aller toujours vers parfois qui galope, on est toujours pris, etc. En fait, ce temps, il est sanctifié par la vie du Christ, par les mystères, ce qu'on appelle les mystères de la vie du Christ. C'est la vie liturgique, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai pris l'Annonciation, parce que c'est l'évangile que nous entendrons le quatrième dimanche de l'Avent. Alors, voyez, prendre conscience que toute notre vie, notre quotidien, tous les événements que nous faisons sont toujours rassemblés dans le mystère de cette vie du Christ, qui était le mystère de notre salut, de notre rédemption. Alors, bien sûr, où est-ce qu'on va le vivre d'une manière très intense? Eh bien, dans l'Eucharistie dominicale. Voilà, on en parlait tout à l'heure avec Sophie. Eh bien, ce rendez-vous hebdomadaire avec le Seigneur pour lui offrir toute ma vie et puis lui offrir aussi la vie de ceux que je partage. Je peux aussi épouser le temps dans lequel je suis. Oui. Il y a des temps ordinaires dans la liturgie, il y a des temps de pénitence, de conversion plus profonde, comme le temps de carême, il y a des temps de grande joie, comme tout le temps pascal, de la résurrection jusqu'à la Pentecôte. Puis il y a des fêtes qui jalonnent tout au long de l'année et bien ce temps liturgique, qui sont des fêtes du Christ, en fait, de la vie du Christ et de la vie de l'Église. Alors ça, c'est un grand moyen pour grandir dans notre amour du Christ et dans sa présence, de rester avec lui. Et puis alors, deux petits autres points. Vous avez maintenant, on a plein de moyens techniques, c'est génial. Et vous savez qu'il y a aussi une prière qui sanctifie les heures du jour. C'est pas simplement hebdomadaire ou les fêtes, etc. C'est ce qu'on appelle la liturgie des heures, ou ce que vous avez, pour les prêtres, vous dites le bréviaire, mais en fait, c'est la prière pour tous les chrétiens. Notamment la prière du matin qu'on appelle les laudes, ou la prière du soir quand on va se coucher qu'on appelle les complies. Il y a aussi les vêpres, il y a aussi le milieu du jour. Et ça, c'est un prolongement du mystère pascal du Christ tout au long de notre journée, qui nous rappelle que chaque instant de notre vie est rejoint par cet acte unique qu'a posé le Christ de donner sa vie pour chacun de nous. Alors, on n'est pas tenu à dire le bréviaire comme nous les prêtres, mais vous voyez, ça veut dire que dans la journée, je peux trouver des moments pour m'arrêter et puis pour faire une petite prière ou « Je vous salue Marie », prendre des gorgées de Dieu, comme disait le père Marie-Eugène, qui vont m'aider après à retrouver le Seigneur plus longuement dans ce temps d'oraison que j'ai choisi de prendre. Et puis, alors, je vous donne aussi une autre petite astuce, moi, qui m'a bien aidé. Si vous regardez bien, il y a des solennités quasiment tous les mois. Alors ça, c'est un bon moyen aussi pour mettre le rendez-vous de la rencontre avec la miséricorde du Seigneur, vous voyez, dans le sacrement de la réconciliation. Se mettre en vérité devant Dieu tous les mois. On a vu à quel point la vérité était importante, de se présenter devant le Seigneur en vérité. Eh bien, tous les mois, je peux aller retrouver Dieu, plus particulièrement dans ce sacrement où je peux faire l'expérience vraiment de la miséricorde de Dieu, qu'il est le bon pasteur qui va chercher la brebis, qu'il est le bon samaritain qui va me relever, etc. À travers ce magnifique sacrement du pardon, de la réconciliation. Donc ça, c'était mon deuxième point. Oui. Donc le premier, c'est cette conversion permanente. Le deuxième point, c'est vécu dans la vie liturgique, toujours uni au Christ, dans son mystère pascal. Et puis, je vais revenir à ce tableau de l'Annonciation. On vous a parlé qu'il y avait deux grands temps de la vie spirituelle, de la vie d'oraison. Un premier temps où on fait beaucoup de choses, c'est Maud qui vous en avait parlé, on fait beaucoup d'efforts pour rejoindre le Seigneur. On a l'impression qu'on fait des efforts pour mettre en place un temps d'oraison, mais des efforts pour essayer d'être gentil, de pas faire le mal, de faire le bien, voilà, ce qu'on appelle en termes savants le secours général de la grâce. Et puis il y a une autre période où le Seigneur il vient prendre un petit peu plus les rênes, ou le gouvernail de la barque, et puis il va agir d'une manière plus personnelle, plus forte, et c'est moi qui vais devoir commencer à suivre Dieu. Et alors la grande question de notre vie spirituelle, c'est comment je vais faire pour attirer Dieu. Non pas moi qui vais aller vers lui, mais comment je vais faire pour que Dieu, c'est lui qui en fait qui vienne, parce que je sais qu'il a de la joie à se donner. Alors si j'ai pris aussi le tableau de l'Annonciation, c'est parce que le père Marie-Eugène, je pense que dans sa méditation mariale, il a découvert à travers la figure de Marie trois grandes attitudes de Marie qui sont en fait des attitudes chrétiennes qui permettent, comment dire, qui attirent Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire des attitudes qui pourraient, alors il ne faut pas le prendre dans un sens moral, hein, mais qui séduisent Dieu, oui, qui font que, d'une certaine manière, Dieu ne peut pas ne pas venir. Alors la première attitude, vous voyez, les lois, et ça on peut les mettre en œuvre pour attirer Dieu dans notre vie, que le Père Marie-Eugène découvre dans la Bible, qu'il découvre sûrement dans la figure de la Vierge. Le premier, c'est un mouvement de don. Marie se donne. Puisque Dieu se donne, eh bien, Marie se donne. Je vais revenir un petit peu après. Oui. Le don de soi qui provoque la miséricorde de Dieu. Vous voyez, l'ange Gabriel est venu demander à Marie quelque chose. Marie a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle était, pour la mission qui lui était demandée. Et ce don de Marie provoque la miséricorde de Dieu, ce qui fait que Dieu descend immédiatement en Marie. Hein, le oui de Marie, c'est ça qui provoque la conception de Jésus en elle. Et ben c'est le don d'elle-même. Et puis Marie, à l'Annonciation, elle nous montre que accueillir Dieu qui se donne, c'est accueillir la parole de Dieu, son verbe, par laquelle il se donne. Et donc, la grande attitude de Marie, c'est d'écouter. Écouter pour aimer de tout son être, de tout son cœur. Et donc, pour écouter, ben, il faut se taire. Et donc, il faut construire le silence. Alors, la deuxième grande attitude, grande loi qui attire Dieu dans ma vie, eh bien, c'est le silence. Et cette construction du silence en moi va construire la paix en moi. Et puis la troisième loi qui attire Dieu irrésistiblement et que nous voyons en regardant Marie, là justement, voyez, c'est que Dieu il se penche avec une préférence sur le pauvre, celui qui reconnaît qu'il n'a rien, celui qui reconnaît qu'il est pauvre devant le Seigneur parce qu'il a tout reçu de lui. Et qu'en n'ayant rien, il possède tout. Et ça, le pauvre, ben c'est celui qui est humble. Alors chez nous, ben, Dieu, il aura plaisir à venir ben, dans ce qu'on appelle, dans la Bible, on appelle les Anawim, les pauvres du Seigneur. Les personnes qui sont prises avec la maladie, avec l'oppression, l'angoisse, qui sont pris dans leur péché, comme la brebis perdue. Tous ceux qui ne la ramènent pas devant le Seigneur. Tous ceux qui se sentent indignes. Voilà, les pauvres, comme Marie. Alors, vous voyez, il y a ces trois attitudes. Don de soi, silence et humilité qui attirent irrésistiblement le Seigneur. Alors, je peux creuser un peu? Je creuse un peu.
Oui.
Alors pourquoi le don de soi, ça provoque la miséricorde de Dieu? Eh bien, le don de nous-mêmes, ça tient au fait que Dieu ne force pas notre volonté. Bien sûr, notre don, donner notre personne, est une réponse déjà, parce que Dieu nous a tout donné. Vous voyez, c'est ce que la Vierge Marie, ce dont la Vierge Marie se rend compte par son Immaculée Conception. Vous voyez, ça ne vient pas d'elle. Mais Dieu nous laisse l'initiative de la réponse. Et alors le Père Marie-Eugène, il dit qu'il y a, comment dire, il y a des qualités à notre don. Voilà. Et alors je voudrais en parler un petit peu. Mais avant, vous voyez, l'intention hein, de nous offrir complètement à Jésus, eh bien, ça va être la condition de toutes les étapes de notre vie. Et cette réalisation hein, du don de nous-mêmes, à travers notre vocation, à travers tout ce que nous allons vivre, etc., bah, ça va être, ce sera justement l'affaire de toute notre vie. Hein, on l'a vu, hein, l'alliance définitive de l'homme entre Dieu et l'homme est accomplie hein, dans l'offrande du Christ. Eh bien, l'alliance entre Dieu et chacun de nous sera scellée par le don complet de nous-mêmes, oui, à la ressemblance du Christ ou à la ressemblance de Marie. Alors, le Père Marie-Eugène, il dit que ce don de soi, il doit être absolu. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Hein. Mais c'est vrai que des fois, on met des limites préalables au don de soi. Alors, absolu, ça signifie une qualité, vous voyez, du don de nous-mêmes qui fait qu'on oriente tout notre être vers Dieu. C'est quelque chose de radical, c'est-à-dire radical, hein, ça vient de radix, qui veut dire la racine. Et absolu, ça ne veut pas dire je vais finir bonne sœur ou je vais finir prêtre. Ou, non. Mais ce que je veux, c'est que toute ma vie, tout mon être soit orienté vers Dieu. Et donc, il y a aussi l'idée d'une totalité, vous voyez. Il n'y a rien qui sera étranger à Dieu de mon existence. Comme je disais tout à l'heure, on saucissonne, ben là, non. Tous les aspects de mon existence sont à Dieu et sont pour Dieu et seront vécus avec lui. Donc ça, c'est important, vous voyez. Et pourquoi ? Parce que il ne faut jamais oublier que nous sommes un moi qui est limité. Voilà. Et donc la réalisation de l'absolu qui est demandé dans notre don, elle sera nécessairement limitée, elle sera particulière. Alors, il ne faut pas confondre l'extension du don de nous-mêmes qui sera toujours limitée. On ne peut pas tout faire, on ne fera pas tout dans notre vie, on ne pourra pas tout être, on ne pourra pas tout avoir. Par contre, le don de nous-mêmes, il n'y aura pas de limite à son intensité. Et alors, je peux être un simple prêtre de campagne, je peux être un simple docteur ou une mère de famille, une épouse. Vous voyez, toute vocation, tout ce que nous sommes, quelqu'un de malade, de souffrant à l'hôpital, c'est pas ça qui empêche le don, vous voyez, parce qu'on peut, c'est l'intensité que l'on met à se tourner vers le Seigneur et à lui offrir toute notre vie. Et donc, si vous voulez, des fois, on met des obstacles et du coup, on empêche notre marche de s'accélérer, de continuer, d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer, qu'il faut faire plein de choses. Non, mais ça veut dire qu'on peut toujours grandir dans l'intensité de l'amour que nous mettons dans les choses que nous faisons. Et ça, vous voyez, ça va être un va-et-vient avec la vie personnelle avec le Seigneur dans l'oraison et puis notre vie concrète de tous les jours. finalement, c'est ce que je fais importe peu, mais c'est comment je le fais. Et c'est là que réside le don. Alors, le Père Marie-Eugène, il dit aussi qu'il y a un deuxième obstacle au don de soi, souvent, c'est qu'on voudrait bien savoir à l'avance comment ça se passera demain. Alors, reprenons Marie, vous voyez, Marie, elle s'offre à Dieu, elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle dit oui, mais elle ne sait pas dans quelle aventure elle va être embarquée. Elle va le découvrir petit à petit, et elle aura la lumière petit à petit. C'est ce que le Père Marie-Eugène appelle l'indéterminé. Et il faut consentir à l'indéterminé. Vous voyez ? Parce que autrement, ben, on pourrait mettre un obstacle. Et puis alors, c'est un manque de foi, finalement. Parce que la confiance, la foi, vous voyez, en Dieu, eh bien, elle se vit, on l'a vu, un peu dans l'obscurité. Et tout ce que nous traverserons, tout ce que nous vivrons, eh bien, nous ne savons pas encore ce que ce sera, mais nous signons un chèque en blanc au Seigneur. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous faisons confiance à Dieu, qu'il nous aime. Et alors, ce don de soi dans l'indéterminé, ben ça fait venir Dieu, voilà, parce qu'on marche avec lui, vous voyez. Il nous attrape par la main et il nous conduit. Alors, Père Marie-Eugène ajoutait toujours cette petite nuance. Il disait, ah, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que l'on a à faire après-demain ou dans 10 jours, mais on sait toujours ce que nous avons à faire à l'instant présent. Notre devoir d'État, etc. Et ça, c'est une certitude, donc ça ne nous laisse pas dans l'angoisse. Vous voyez, ce n'est pas une indétermination angoissante. Et dans l'oraison, vous voyez, ben dans l'oraison, quand on se remet à Dieu, vous voyez, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes quotidiennes, d'une certaine manière, ben on s'abandonne à Dieu et on dit, ben Seigneur, pour ce que tu voudras. Alors du coup, vous voyez, en raison de cette indétermination, eh bien, l'avenir hein, appelle le constant renouvellement du don de nous-mêmes. Parce qu'on a une fâcheuse tendance parfois à se reprendre, à se rattacher aux branches, ou vous savez, on accumule un peu. Moi, c'est fou si vous avez déjà déménagé plusieurs fois. Au bout d'un an, des fois, ou 2 ans, voilà, on doit déménager, on doit repartir. C'est fou tout ce qu'on a accumulé, quoi. Donc ça nous pèse. Alors on doit tout. Il faudrait 3 semi-remorques pour tout déménager. Vous voyez, on est alourdi. La marche a été un petit peu. Arrêter, vous voyez, enfin, forcément ralenti. Alors, il faut dégraisser le mammouth. Alors, eh bien, on doit, nous, dégraisser le mammouth spirituel, c'est renouveler le don de nous-mêmes, souvent, vous voyez. Puis, du coup, ça apporte une fraîcheur aussi par rapport à nos relations avec les autres, à pas nous enquister, à pas nous encroûter, et puis à pas enfermer les autres non plus dans des stéréotypes ou des préjugés. Alors ce don-là, vous voyez, ce don complet de nous-mêmes, ça attire Dieu. C'est le fruit de l'oraison. C'est un des fruits de l'oraison pour notre vie. Puis c'est ce qui nous amène de nouveau à l'oraison. Vous voyez. Et c'est, vous voyez, c'est regardons Marie. Vous voyez, c'est beau là, hein, parce que dans l'Annonciation, ben, vous avez le don de soi de Marie. Et puis, Marie est humble, enfin, elle est silencieuse. J'ai dit d'abord le silence, mais je vais peut-être aller plus vite. Puis... Alors, c'est difficile le silence aujourd'hui. Et pourtant, on voit bien que Marie est silencieuse et le silence de Marie, oui, c'est pas simplement un silence de la langue ou un silence intérieur, c'est un silence qui permet d'agir avec Dieu, en fait. Il y a un prêtre, il a toujours un jeu de mots, il dit « Est-ce que j'agis ou est-ce que j'agite ?» Alors le silence, vous voyez, le silence de ma parole, le silence de mon activité, des fois c'est-à-dire de mesurer mon activité, eh ben ça permet à collaborer avec Dieu, vous voyez, plus qu'à m'agiter dans tous les sens et à me perdre des fois dans un activisme, dans la fièvre. En fait, pour être plus simple, si vous voulez, dans la question du silence, dans cette attitude de silence qui attire Dieu, c'est tout le problème de notre vie intérieure. Faire silence, c'est d'une certaine manière le déployer l'espace qui rend possible la rencontre avec Dieu. Alors que vous voyez l'agitation nerveuse, de vivre toujours dans le bruit, etc., bah, ça empêche Dieu de frapper, de venir, de se manifester. Vous voyez, c'est pas Dieu qui est absent, mais c'est nous qui nous divertissons de lui par le bruit de nos activités, toujours des choses à faire, de la musique dans les écouteurs, ou alors du bavardage, etc. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Marie? Vous voyez, à l'Annonciation, Marie à l'écoute. Et donc, cette mise à l'écoute de Marie, eh ben, lui permet de saisir l'aile de l'ange qui vient la caresser et lui révéler le dessein de Dieu. Alors, je dirais juste un tout petit mot, mais ça, on l'a déjà vécu dans l'oraison, sûrement. Des fois, on arrive à nous couper du silence, du bruit extérieur. Je rappelle que le bruit de la nature, hein, le chant des oiseaux, une source qui coule, c'est pas du bruit, ça c'est du silence. Et ça nous aide à nous recueillir. C'est parce que par la source, par le chant des oiseaux, Dieu me parle, je peux l'entendre. Et nous découvrons souvent qu'en rentrant en nous-mêmes, si nous avons quitté le silence extérieur, nous avons en nous une véritable cacophonie. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal et ça prendra du temps. Et dans l'oraison, nous en faisons l'expérience que des fois, nous parvenons même à ce silence intérieur où Dieu se donne et où je suis à l'écoute. Et puis, vous voyez, cette attitude de silence pour écouter Dieu, eh ben, elle m'apprend aussi à entrer dans l'écoute de l'autre, à faire silence pour recevoir l'autre. En fait, le silence, c'est le lieu de l'hospitalité. Vous voyez. Alors, quand Dieu il voit qu'il y a de l'hospitalité, eh bien, il vient, vous voyez, c'est comme les personnes, quand elles voient qu'on est ouverte à la rencontre, qu'on a du temps, eh bien, elles vont se confier, elles vont se livrer, elles vont se donner. Et puis la troisième attitude, hein, la troisième grande loi de la vie spirituelle, eh bien, vous voyez, c'est avec Marie, eh bien, c'est l'humilité. Ce que je vous disais, le pauvre, l'anawim, vous voyez, bah, c'est oui, mais oui, on est une créature, et en plus, on est une créature blessée. Je découvre en moi une attirance au mal. Oui. Alors Marie, elle est pauvre. Elle est pauvre parce qu'elle sait qu'elle est créature et qu'elle n'est que créature. Mais elle est pauvre, elle est très très pauvre. Oui. Puis il n'y a aucun mouvement d'orgueil en elle. Parce qu'elle a de la chance, d'une certaine manière, c'est qu'elle n'a pas le péché originel. Donc elle a aucun péché ni rien du tout. Mais elle est la pauvre par excellence. Oui. Et alors vous voyez, ben, cette pauvreté, cette humilité, eh bien, elle attire Dieu irrésistiblement. Et cette humilité, vous voyez, on va l'acquérir. C'est une distinction aussi que fait le père Marie-Eugène. On va l'acquérir dans la vie d'oraison. Ce que disait Sophie, ce que disait Benoît, ça m'a frappé. Parce que le père Marie-Eugène, il dit qu'il y a une humilité qui est de raison, en fait, une humilité raisonnable, de calcul. Et on a appris à être bien chrétien, donc bon, on sait bien qu'il ne faut pas écraser les gens, et on sait bien qu'il y a des gens qui sont plus forts que nous, donc voilà, on se raisonne, vous voyez, on se dit, bon, ben, il faut que je suis humble, je fais un peu l'expérience de mes limites, etc. Mais il y a une vérité. C'est pas la véritable humilité, dit le père Marie-Eugène. Il dit que la véritable humilité, c'est une humilité qui vient de d'une vraie rencontre avec Dieu. Et c'est quelque chose d'existentiel, de théologal. Et donc, c'est une rencontre avec Dieu qui est infinie, vous voyez, qui écrase d'une certaine manière. Et là, on fait l'expérience un jour que, eh bien oui, on n'est que ça. On est bien pauvre. Alors, en même temps, c'est écrasant, puis en même temps, c'est suave. Bon, ça, c'est des paradoxes, des antinomies de nos vies spirituelles. Mais vous voyez, on voit bien que à travers l'humilité, vous voyez, s'oppose à l'orgueil. Et ça c'est le péché. La racine de tous les péchés, c'est l'orgueil. Oui. Et en Marie, il n'y a pas une once d'orgueil, et donc son humilité attire immédiatement Dieu. Et bien nous, nos pauvretés, comme je vous disais tout à l'heure, et le fait de nous reconnaître comme des brebis perdues, comme ce pauvre qui gît sur la route de Jéricho à Jérusalem, eh bien, ça attire irrésistiblement Dieu. Donc voilà ces attitudes que nous pouvons, avec lesquelles nous pouvons essayer de vivre notre vie chrétienne à chaque instant, voyez, en dehors de notre vie d'oraison, et que l'on retrouve dans la vie d'oraison, dont le soi, humilité et silence. Alors c'était mon troisième point. Et voilà le dernier. Toujours en regardant Marie dans l'Annonciation, eh bien, quand Jésus vient prendre chair en Marie, c'est le début de l'Église. Parce que la tête est là, et un jour, les membres à la Pentecôte, recevant l'Esprit-Saint, pourront être unis à la tête. Alors, ce mystère de l'Église, nous pouvons le vivre d'une manière encore plus forte et plus concrète et dans l'oraison. Et ça peut nous aider à poursuivre notre oraison. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre pape. Il a 84 ans. Et alors, j'ai trouvé un texte magnifique que je vous partage, qui est un peu long, mais j'ai trouvé très, très beau. Il y a une absence frappante dans le texte du Notre Père. C'est une catéchèse qu'il a fait sur Notre Père. Si je vous demandais à vous quelle est l'absence frappante dans le texte du Notre Père, il ne sera pas facile de répondre. Il manque un mot. Réfléchissez tous. Que manque-t-il dans le Notre Père? Pour gagner du temps, je vais vous le dire. Il manque le mot « je ». On ne dit jamais « je ». Jésus enseigne à prier en élançant sur les lèvres avant tout le « tu ». Parce que la prière chrétienne est dialogue. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, vous voyez, dialogue de l'oraison. Hein. Non pas mon nom, mon règne, ma volonté. Pas moi, cela ne va pas. Puis, on passe au nous. Toute la deuxième partie de notre Père est déclinée à la première personne du pluriel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Même les requêtes les plus élémentaires de l'homme, comme celle d'avoir de la nourriture pour assaisir la faim, sont toutes au pluriel. Dans la prière chrétienne, personne ne demande le pain pour soi. Donne-moi le pain de ce jour. Non, donne-nous. Il le supplie pour tous les pauvres du monde. Il ne faut pas oublier cela. Il manque le mot « je ». On prie avec le « tu » et avec le « nous ». C'est un bon enseignement de Jésus, ne l'oubliez pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de place pour l'individualisme dans le dialogue avec Dieu. Il n'y a pas d'ostentation de ses problèmes comme si nous étions les seuls au monde à souffrir. Il n'y a pas de prière élevée à Dieu qui ne soit la prière d'une communauté de frères et sœurs, le « nous ». Nous sommes en communauté, nous sommes frères et sœurs, nous sommes un peuple qui prie, nous. Un jour, l'aumônier d'une prison m'a posé une question. « Dites-moi, Père, quel est le contraire de « je » ?» Et moi, ingénu, je lui ai dit « tu ». C'est le début de la guerre. Le contraire de « je » est « nous », où il y a la paix tous ensemble. C'est un bel enseignement que que j'ai reçu de ce prêtre. Alors, vous voyez, un des fruits de l'oraison, qui n'est pas, comme dirait le pape, c'est pas une prière individualiste, c'est une prière personnelle et donc ecclésiale qui va faire grandir en nous le sens du nous, le sens de l'Église. Et inversement, vous voyez, nous rendre compte que nous ne pouvons pas avancer sans les autres. Donc, je dirais d'une certaine manière, vous voyez, c'est pas mon oraison, c'est notre oraison, c'est notre vie de prière. Finalement, c'est notre vie chrétienne et tout simplement, c'est notre vie humaine. Et parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes d'un même peuple, eh bien, je compte pour l'autre. Et l'autre compte pour moi. Je compte sur l'autre et l'autre compte sur moi. Et c'est ça le grand témoignage que nous avons à donner. Oui. Et donc, on n'est jamais seul dans ce combat de la prière, dans ce combat de l'oraison, mais nous formons une communauté de frères et sœurs. On est un nous, et donc on peut s'aider. Oui. Déjà, on peut découvrir que notre prière, vous voyez, des fois, j'ai pas envie de... Ah oui, mais c'est pas que pour moi aussi, c'est pour mes frères et sœurs, puis c'est pour l'ensemble de l'humanité, bien sûr. C'est pas... L'Église, c'est pas un club fermé, c'est pour tout le monde. Oui. Donc, ça me marque beaucoup cette année, hein, puisque avec le groupe de prière de Lyon, on travaille sur Edith Stein, hein, devant Dieu, mais pour tous. Ça, c'est beau, oui. Et du coup, vous voyez, de découvrir de plus en plus, de rentrer dans le mystère de l'Église, de nous donner, vous voyez, dans ce mystère de l'Église, ça peut nous donner le goût de l'oraison. C'est toujours un va-et-vient, vous voyez, dans notre vie. C'est lié. Et vous voyez, c'est donc l'oraison, c'est pas simplement un petit moment comme ça, mais en fait, c'est une prière ecclésiale. En fait, ça rejaillit pour l'ensemble du monde, du temps et de l'espace. Alors, du coup, il y a une valeur à laquelle j'aime beaucoup, une valeur, c'est une réalité même. En tout cas, pour nous aider et nous tenir dans l'oraison. Eh bien, c'est l'amitié. Voilà. Alors moi, j'y tiens beaucoup parce que vous voyez, par exemple, c'est je suis devenu chrétien par mon meilleur ami. Voilà. Je me suis converti quand j'avais l'âge de 22 ans. Et c'est par l'amitié que j'ai rencontré le Seigneur. Et parce que le Seigneur est un ami. Alors, vous avez un très beau texte aussi. Vous avez plein de numéros dans Christus Vivit, toujours de notre pape François, pour lui fêter ses 84 ans. Voilà. Il parle de l'amitié. Il dit, l'amitié est un cadeau de la vie, un don de Dieu. Le Seigneur nous polit et nous fait mûrir à travers les amis. En même temps, les amis fidèles qui sont à nos côtés dans les moments difficiles sont un reflet de la tendresse du Seigneur, de son réconfort et de son aimable présence. Avoir des amis nous apprend à nous ouvrir, à prendre soin des autres, à les comprendre, à sortir de notre confort et de l'isolement, à partager la vie. C'est pourquoi un ami fidèle n'a pas de prix. Et vous voyez, ce trésor de l'amitié, ce mystère de l'amitié, pour avancer dans la vie d'oraison, ça c'est important. Et pour aller rencontrer l'ami qui est Jésus, j'ai besoin d'avoir des amis. Et qui des fois vont me secouer, vont me dire mais non, il faut y aller, etc. Et puis on s'entraide, on marche ensemble et on partage. Et puis toujours dans ce cadre du nous, hein, de l'amitié, eh bien quand on veut qu'on prend au sérieux notre vie chrétienne, notre chemin de sainteté, eh bien des fois on a besoin aussi d'être accompagné d'une manière un petit peu plus précise. Ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, vous voyez, l'accompagnateur spirituel, le père spi, comme vous voulez, eh bien, ça peut être aussi une façon d'avancer par l'amitié, par l'Église, sur les chemins de ma vie spirituelle, parce que des fois, il y a des moments plus délicats, plus difficiles. Et on a besoin de quelqu'un qui connaît un peu le chemin, qui est passé par là, qui va nous rassurer justement, ou qui va maintenir l'exigence, mais où on se sentira compris, ou pas d'ailleurs, mais qui sera là. Voilà. Donc vous voyez, à travers ces petits points, eh bien, la vie d'oraison va dilater ma perception et ma compréhension de la réalité comme une réalité ecclésiale où nous sommes liés les uns avec les autres, où nous ne pouvons pas aller vers Dieu les uns sans les autres. Et cette perception de plus en plus grande, importante, vous voyez, va nous entraîner à retrouver ce temps personnel avec le Seigneur pour, comme une respiration, vous voyez, lui offrir toutes ces personnes avec qui nous marchons, avec qui nous travaillons, avec qui nous rions, avec qui nous pleurons, avec qui nous souffrons. Voilà. Pour rejoindre le Seigneur.